Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les Anglais sont-ils partis pour rester ? Pour reprendre une formule attribuée à plusieurs auteurs, si vous avez compris quelque chose au Brexit, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Car plus le temps passe, plus le dossier s'épaissit, plus il devient complexe. Le 29 mars, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne, conformément aux règles de l'article 50 du traité européen, déclenché il y a 2 ans par Theresa May. Sauf qu'à moins d'un mois de la date fatidique, rien n'est encore définitif. 4 hypothèses sont encore en lice. Soit les Britanniques s'en vont sans le moindre accord, ce serait un Brexit dur, soit ils partent dans le cadre d'un accord avec l'Europe, soit ils obtiennent un délai de réflexion supplémentaire, quelques semaines, soit ils ne partent pas du tout et l'Union reste à 28. Cette dernière hypothèse paraît la moins probable, elle supposerait d'organiser un nouveau référendum dans les mêmes termes que le premier, ce qui reviendrait à remettre en cause la légitimité du vote exprimé il y a 3 ans. Un déni de démocratie, sauf à considérer que 2019 n'a plus rien à voir avec 2016, que les conséquences du Brexit sont désormais beaucoup mieux connues pour justifier l'organisation d'une nouvelle consultation. Tout est donc encore possible. Alors les Anglais sont-ils partis pour rester ? C'est le thème de la discussion ce soir en compagnie de 3 invités. Catherine Mathieu, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Office français des...
L'Observatoire
français Office. Oh là là, ça fait vieillot en plus. Observatoire français des... conjonctures économiques. Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes et vous avez signé avec Henri Sterdyniak dans le dernier L'économie européenne 2019 publié à la découverte le chapitre intitulé Brexit, une sortie impossible avec un point d'interrogation. Vivien Pertuso est notre 2e invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Vous êtes spécialiste entre autres des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi que des questions de politique de sécurité et de défense. Et puis, notre 3e invité, il est britannique. Il est au téléphone à Londres. Il s'agit de Robert Thames. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur au St. John's College de l'Université de Cambridge, spécialiste des relations franco-anglaises et vous êtes, partisan du Brexit. On avait d'ailleurs eu la joie de discuter avec vous. C'était il y a 3 ans, en avril ou mai 2016, je ne me souviens plus très bien. C'était pour un débat à Londres avant la consultation. On parlait beaucoup à l'époque, Robert Thames, les Britanniques parlaient beaucoup, évidemment, à l'époque du Brexit. Est-ce que c'est encore aujourd'hui le principal sujet de conversation chez vous ?
Ah oui, même plus que jamais. Il faut dire que les gens sont beaucoup plus excités, beaucoup plus divisés par la question que même il y a 3 ans. D'un côté, on attend à la catastrophe. À l'autre côté, on croit à la trahison. Donc, vous voyez que nous sommes dans un état, en ce moment, assez excité.
Ça, c'est quand même assez incroyable de se dire que presque 3 ans après, on en est à un niveau de débat sur le Brexit, sur les conditions de sortie, voire peut-être sur la nécessité ou pas de sortir, qui est non pas du même niveau, puisque vient de dire Robert Thames, mais d'un niveau encore supérieur, Catherine Mathieu. Est-ce que vous observez ça, vous qui travaillez sur ces questions depuis quelques années du coup ?
Oui, effectivement, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'en 2016, quand les Britanniques ont été appelés à voter pour rester dans l'Union européenne ou pour sortir de l'Union européenne, il y avait de nombreuses questions qui avaient été mises sur la table, en particulier la question du coût économique d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et le gouvernement britannique, les institutions internationales avaient insisté sur le fait que si le Royaume-Uni décidait de sortir de l'Union européenne, il y aurait un coût à la sortie qui pouvait être évalué, selon certaines estimations à cette époque produites par le Trésor britannique, à long terme, à environ 10% du produit intérieur brut britannique. Et donc, en fait, on pensait, c'était un des éléments pour lesquels on pensait que les Britanniques allaient voter pour rester dans l'Union européenne. Mais ils ont voté pour sortir de l'Union européenne en majorité. Et depuis 3 ans, les négociations qui sont menées par le gouvernement britannique avec l'Union européenne visent à mettre en place une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne une fois que le Royaume-Uni sera sorti, sans perdre l'accès au grand marché européen. Auxquels souhaitent continuer à participer les Britanniques. Et l'Union européenne a eu depuis 3 ans une position très dure vis-à-vis des Britanniques en leur disant « si vous quittez l'Union européenne, vous ne pouvez pas garder l'accès au grand marché et il y aura des conséquences économiques négatives ». Et donc en fait, on est depuis 3 ans toujours en fait dans le même débat entre le fait de dire aux Britanniques « mais si vous sortez, vous devrez payer un prix », ça c'est la position de l'Union européenne. Et puis du côté britannique, on dit « oui, on a décidé, dire on a voté pour sortir de l'Union européenne. Il faut respecter ce vote et il faut trouver un accord.
Les termes du débat, on peut évoluer finalement en 3 ans, Vivien Pertuso.
Ah, c'est vrai que pour le coup, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un événement politique où pendant 3 ans, on en parle avec toujours la même ferveur et toujours de la même manière. C'est-à-dire avec un niveau d'incertitude et de complexité qui ne change pas. Si on reprend un petit peu ce qui s'est passé depuis 2016, on a quand même eu entre le vote en juin 2016 et mars 2017, c'est-à-dire le déclenchement de l'article 10, de l'article 50, comme vous le mentionnez tout à l'heure, on a eu un débat totalement absurde avec des arguments de part et d'autre, mais qui n'aboutissait pas à une feuille de route du côté britannique. Et ensuite, depuis mars 2017, c'est-à-dire 2 ans quand même, on a à peu près les mêmes termes du débat. Surtout que il y avait 3 points qui étaient extrêmement importants pour les Européens à clarifier rapidement. C'était 1, la facture à payer pour les Britanniques pour la sortie de l'Union européenne. 2, c'était les droits des populations britanniques et européennes après le Brexit. Et 3, c'était l'Irlande du Nord. Les 2 premiers ont été résolus relativement rapidement. Et donc en fait, depuis presque une grosse année, on ne parle que de l'Irlande du Nord. On parle beaucoup moins des relations futures. Effectivement, ça c'est un point qui est extrêmement important pour les Britanniques, mais les Européens leur disent parlons d'abord de la sortie avant de parler de la suite.
Cette complexité, elle est assez flagrante de notre côté en France, Robert Dombes, parce qu'on a du mal, même si les termes du débat finalement évoluent peu, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure que le temps en passe, le dossier se complexifie. Et donc, parler du Brexit, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce qu'au moins, du côté britannique, si les débats sont toujours importants, au moins on y voit un petit peu plus clair?
Plus clair, je ne sais pas. Le problème est plutôt politique, de mon avis. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est en majorité pour le Brexit, mais nous avons une classe politique qui est en majorité contre. Et un gouvernement qui ne croit pas vraiment à sa propre politique et un premier ministre qui ne veut pas, faire ce qu'elle a promis de faire aux dernières élections. Donc c'est devenu une sorte de crise du système politique simplement parce que les députés actuellement en place sont en majorité contre le Brexit et essaient de trouver tout moyen possible de l'empêcher de se faire et encourage les Européens, je dis les Européens, je veux dire la Commission européenne, Monsieur Barnier, Monsieur Juncker, etc., de refuser des concessions. Alors, est-ce que la position britannique est complexe? Oui, parce que c'est plus ou moins malhonnête du part du gouvernement qui promet de faire des choses qu'il ne veut pas vraiment faire, de Madame May qui est dans une position politique extrêmement faible et qui est elle-même probablement en dessous de la situation.
Sur les divisions, Robert Tombs, au sein de la classe politique britannique, il y a un historien français que vous connaissez peut-être, Emmanuel Todd, qui s'exprimait il y a quelques semaines de cela dans une interview pour le site Mediapart, et qui, à propos donc de ces conflits entre travaillistes et conservateurs, et puis également au sein de ces formations politiques, disait, lui, qu'il voyait dans cette division l'incarnation même du débat démocratique, et que l'affrontement entre Brexiteurs, c'est-à-dire ceux qui veulent quitter l'Union, et Remainers, ceux qui veulent y rester, et surtout l'essence d'un regain démocratique. Vous ne voyez pas les choses de cette manière?
J'espère que c'est vrai. En fait, nous sommes devenus, nous avons adopté une sorte de discussion archaïque, 19e miste de la politique, où on a une partie de la bourgeoisie qui dit le peuple n'est pas capable de faire des décisions parce qu'ils sont trop stupides ou trop préjugés ou trop informés sur les questions complexes. Donc c'est pour nous de décider et pas pour le peuple. Alors ce sont des arguments qu'on n'entend plus depuis le milieu du 19e siècle, mais qui sont revenus à la mode. Et on voit des personnages politiques et des commentateurs, des journalistes qui disent plus ou moins crûment, je n'ai jamais eu confiance au peuple, je n'ai pas confiance aujourd'hui, il faut l'empêcher de faire des dégâts et donc il faut que les décisions soient prises par les personnes comme nous, comme la classe, l'élite de la nation qui comprennent ces complexités.
Alors j'ai cité Emmanuel Todd par rapport à Mediapart, pardonnez-moi, hein, c'était une interview dans Marianne, voilà, ça c'est petite précision française. Juste avant de vous redonner la parole, Robert Tantz, je voudrais faire réagir Vivien Bertuzzo et Catherine Mathieu, peut-être aussi sur le niveau de responsabilité des partis politiques britanniques dans cette énorme complexité et dans cette lenteur à trouver une façon de sortir de l'Union européenne, si tant est que la sortie soit effective dans les semaines à venir. Vivien Bertuzzo.
Il y a déjà un premier point qui est important, c'est que les partis politiques britanniques connaissent peu l'Union européenne. C'est pas quelque chose qui les intéresse fondamentalement. Donc en fait, si on reprend même avant le référendum, on avait des arguments, des débats sur l'Union européenne qui étaient complètement lunaires. On parlait pas du tout de l'Union européenne, on parlait d'une vision de l'Union européenne vue par les Britanniques et vue depuis les intérêts britanniques.
Vous pensez que le débat en France entre les partis politiques français est différent?
Probablement, un petit peu quand même. Ouais. C'est-à-dire que déjà on fait partie de la zone euro, il y a une culture européenne qui est plus forte dans les partis politiques français, un peu plus forte. En tout cas, ce qui joue, c'est que déjà de base, les débats étaient un peu tronqués, avec une difficulté à aborder les questions européennes. Et ça s'est traduit par ensuite une difficulté à formuler des plans, on va dire un petit peu sérieux sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ensuite, un petit peu effectivement par des calculs politiciens, notamment du côté du Parti travailliste, sur plus on affaiblit le Parti conservateur, plus on va aller vers des élections générales, et plus ça va servir nos intérêts. Donc en fait, on a effectivement un petit peu quand même un débat politique au Royaume-Uni, on va dire assez toxique.
Catherine Mathieu.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que les politiques britanniques connaissent bien la situation européenne, justement, et il y a eu un grand débat au Royaume-Uni, mais depuis de nombreuses années, à commencer par les conservateurs qui, depuis que le Royaume-Uni est entré dans la communauté économique européenne, discutent en disant mais est-ce que c'est bien d'être dans cette communauté économique européenne ou est-ce qu'on doit en sortir? La question de la souveraineté, par exemple, est une question qui est discutée depuis très longtemps au Royaume-Uni. Et on a vu au cours du temps, justement, le Royaume-Uni, qui était entré dans la communauté économique européenne, dire on ne souhaite pas aller au-delà, on ne souhaite pas entrer dans la zone euro, on souhaite garder notre souveraineté monétaire, la livre, on souhaite garder le contrôle de notre politique budgétaire. On n'a pas envie d'aller vers le fédéralisme européen. Et ça, les parlementaires britanniques et les Britanniques eux-mêmes en discutent depuis très longtemps et sont très divisés sur cette question. Et ça, c'est le point déjà chez les conservateurs et chez les travaillistes. Il y a aussi depuis très longtemps une discussion sur les questions européennes. Pour les travaillistes, pendant longtemps, notamment pour Jeremy Corbyn, le fait d'être dans l'Union européenne était trop libérale et il fallait mettre davantage de social dans l'Union européenne. Donc en fait, c'est un sujet qui est beaucoup discuté chez les parlementaires britanniques. Et justement, depuis 3 ans, moi, il me semble que les Britanniques discutent beaucoup sur ces questions de fond. Quel doit être le modèle européen? Quelle place doit avoir la souveraineté dans ce pays? Vers quelle Europe veut-on aller? Et c'est un débat en fait qu'on a beaucoup perdu en France. On a, et de façon générale dans la zone euro, avec ce côté c'est inévitable, on fait partie de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre choix, alors qu'on discute au Royaume-Uni.
Vivien Bertuzzo,
alors je suis pas en désaccord là-dessus effectivement. Enfin, c'est vrai que la situation britannique me fait beaucoup penser à la situation suisse où on parle beaucoup plus de l'Union européenne quand on n'en fait pas partie que quand on en fait partie. Cela étant, quand on voit la nature des discussions du côté britannique, c'est une approche très économique et principalement économique de l'Union européenne et assez peu politique. Et donc en fait, il y a beaucoup d'arguments qui ont été complètement éludés, ne serait-ce que simplement est-ce qu'on a envie de plus ou moins de défense européenne? On considère que la défense européenne, c'est l'OTAN. Donc on ne réfléchit même pas en fait à ces questions-là. Du côté économique, c'est nous, notre intérêt, c'est le marché intérieur aussi bien dans les services financiers que dans les biens. Donc on cherche à faire en sorte que tout aille dans ce sens-là, etc., etc. Et on bloque tout ce qui pourrait ne pas aller dans notre sens. Donc c'est en cela que le débat est un peu toxique au niveau britannique, je trouve.
Alors s'il y a une approche économique peut-être au niveau de la classe politique, ça n'est pas tout à fait le cas, votre cas à vous, Robert Tantz, puisque dans une tribune que vous avez publiée récemment pour le magazine britannique The Spectator, dans la tribune dans laquelle vous réaffirmez votre adhésion au principe du Brexit, et vous la réaffirmez notamment au regard de ce que cela peut inaugurer comme nouvelle ère de la puissance britannique, d'une Grande-Bretagne globale. qui vous fait regarder du côté alors de ce qui appartient plutôt au passé de la France, mais qui est le passé gaullien lorsque la France était souveraine et indépendante. Est-ce que j'ai bien résumé votre point de vue?
Je suis plutôt pour la démocratie nationale, ça c'est sûr. La puissance, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, comme la France, est un des pays les plus puissants du monde. Dans les, je ne sais pas, vous pouvez discuter où exactement nous nous plaçons, mais nous sommes tous les deux des pays importants, et je pense que nous devrions nous prendre la responsabilité de cette position dans le monde. Mais pour moi, la question est plutôt maintenant une question de légitimité politique. Si, et on fait voter le peuple, en fait, on veut refuser d'accepter la décision populaire qui était confirmée dans les élections générales il y a 2 ans, alors c'est tout le système politique qui rentre en crise. Et c'est pour moi la chose la plus importante maintenant, beaucoup plus importante que les questions de bénéfices ou de pertes économiques. C'est une question de savoir si nous sommes dans un véritable démocratie réglementée par les lois, par un système constitutionnel, ou si c'est quelque chose qui peut être détourné parce que des personnes puissantes veulent changer l'opinion populaire.
Est-ce que je dois entendre dans votre réaction, Robert Thomas, que vous considérez l'hypothèse d'un nouveau vote comme aujourd'hui l'hypothèse la plus probable au Royaume-Uni?
Tout est possible en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec ce que a été dit tout à l'heure. C'est tellement confus que tout est possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens des deux côtés qui pensent qu'un deuxième référendum serait extrêmement dangereux et créerait des divisions beaucoup plus profondes même que celles que nous avons maintenant. Alors la question est moins de savoir si on ferait revoter l'électorat avec des conséquences inconnues, mais simplement de dire exactement comment on sort de cette position actuelle. Nous avons, comme vous avez dit au début, nous avons l'accord qui a été négocié par Madame May, nous avons la possibilité de sortir sans accord, ou nous avons la possibilité de demander un sursis et de discuter encore. Il me semble que ce sont ces trois positions-là qui sont les plus probables, plutôt qu'un deuxième référendum que je pense donnerait le même résultat que le premier.
Trois hypothèses parmi les plus probables, donc, hein, selon Robert Thomas: une sortie sans accord, une sortie avec un accord, un nouveau délai accordé, alors pour quelques semaines a priori, parce qu'après il va y avoir l'installation du Parlement européen, donc ça compliquerait un petit peu le calendrier. Bon, n'est pas une complication près, cela dit, s'agissant du Brexit, un nouveau référendum, l'hypothèse que le Royaume-Uni finisse finalement par ne pas sortir, par rester au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne peut en écarter aucune absolument, Catherine Mathieu.
Oui, je pense effectivement aujourd'hui que tout est possible. Alors aujourd'hui, si on essaye de fixer des probabilités, hein, ce qui est très difficile, peut-être le plus probable est encore qu'il y ait un accord qui soit obtenu d'ici la fin mars. Il y a des négociations cette semaine entre la Commission européenne, enfin les négociateurs de la Commission européenne et les négociateurs britanniques sur le fait de pouvoir changer ce qui pose le plus problème à un certain nombre de Brexiteurs, qui est le fameux backstop, le filet de sécurité qui assurerait qu'en aucun cas il n'y aurait une frontière dure qui serait rétablie en Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Alors, y aura-t-il un texte qui sera acté par les négociateurs d'ici le 12 mars prochain? Ça, c'est vraiment un élément important. Parce
Michel
que le 12...
Barnier, qui est le négociateur en chef, a l'air plutôt de laisser entendre qu'ils sont encore disposés à modifier un peu le texte. Il s'exprimait là ces jours-ci dans plusieurs journaux européens en disant notamment: si les Britanniques veulent beaucoup plus qu'un accord de libre-échange, nous pouvons modifier en profondeur la déclaration politique qui pose les bases de la relation future. C'est-à-dire qu'on est encore, donc, le 29 mars, c'est l'échéance. Normalement, en tout cas, ça devrait être l'échéance. On est encore dans les négociations sur un accord de sortie.
Oui, surtout sur, effectivement, ce filet de sécurité, sachant que la semaine prochaine, le 12 mars, Theresa May doit présenter au Parlement britannique un nouvel accord, justement, qui tiendrait compte de ces dernières négociations sur le filet de sécurité. Soit cet accord est validé par une majorité de parlementaires britanniques et donc on se dirige vers une sortie avec un accord. soit cet accord est rejeté par une majorité de parlementaires britanniques. À ce moment-là, les parlementaires devront voter sur le fait, sont-ils d'accord pour qu'il y ait un no deal, une sortie sans accord ou pas. Ce vote aurait lieu le 13 mars. Et s'ils votent en majorité contre une sortie sans accord, ce qui semble être le plus probable, il y aurait peut-être un vote le 14 mars des parlementaires britanniques pour demander un report. Et effectivement,
il faudrait que l'Union européenne soit d'accord.
Il faudrait qu'elle soit d'accord. Et comme vous disiez à l'instant, mais oui, je pense que l'Union européenne, enfin, en tout cas, pour l'instant, l'Union européenne dit, et enfin, en tout cas, Michel Barnier et Theresa May le disent aussi, s'il y a un report, il faut savoir pourquoi. Parce que on peut accepter un report, mais il faudrait savoir ce qu'on va pouvoir changer dans l'accord actuel.
Bon, alors, vous avez dit avec Robert Thoms, Catherine Mathieu, que pour l'instant, tout était encore possible. J'ai bien vu que vous ne vouliez pas trop vous mouiller, parce que ce que réserve l'avenir. Vous, Vivien Pertuzot, vous allez être beaucoup plus radical. Vous allez nous dire quelle est l'hypothèse, quel est le scénario qui finalement va avoir lieu.
Non, je sais pas si je vais pouvoir faire ça, mais c'est vrai que juste une précision, parce que c'est vrai que finalement on est sur des choses qui sont extrêmement techniques, mais chaque mot compte. Là, il y a deux textes qui sont aujourd'hui sur la table. Il y a à la fois le texte de sortie qui a été approuvé par les 27, et il y a également la déclaration politique, qui sont deux textes différents. Là où il y a une marge de manœuvre, c'est sur la déclaration politique. Sur le texte de sortie, les Européens ont été très clairs, ils ne bougeront pas là-dessus, ce serait trop compliqué en plus à faire revoter, etc. tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque l'on parle d'un report, on peut parler de deux types de reports différents. Il y a un premier report qui est ce qu'on utilise dans le jargon bruxellois, une extension technique. Je suis pas sûr que ce soit exactement ça le terme, mais bon. Donc en fait, c'est de dire que le 12 mars, la semaine prochaine, il y a un vote positif en faveur du texte de sortie. Le Parlement britannique s'est prononcé en faveur de ce texte. Tout va bien. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut le faire ratifier. Ça, c'est un vote au Parlement. Ensuite, il faut le faire ratifier. Et là, faire ratifier le texte en l'espace de 2 semaines et demie, ça risque d'être compliqué parce que plusieurs modalités sont possibles. Soit on fait simplement un nouveau vote au Parlement britannique, soit il y a un référendum qui est organisé, et pour le moment, c'est pas certain. Et donc là, le report serait de quelques semaines. Après, et juste pour être très bref, il y a un deuxième type de report qui pourrait être s'il n'y a pas d'accord la semaine prochaine, et donc à ce moment-là, on aurait un report qui pourrait aller sur plusieurs mois. Mais comme vous l'avez dit, ça pose un peu problème parce que plusieurs mois signifie quand même avant la prise de fonction du nouveau Parlement européen, parce que sinon, il faut que les Britanniques participent aux élections européennes, ce qui devient un casse-tête juridique impossible.
Donc j'évoquais 4 scénarios au début de l'émission. Avec vous, il y en a encore plus. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Robert Thoms, oui, allez-y.
Pour comprendre ce qui est vraiment derrière cette question, il me semble qu'il faut comprendre que pour les Brexiteurs, ils sont prêts à accepter l'accord de mai, à condition qu'ils peuvent plus tard en sortir. Donc, pas que cet accord est accepté généralement, c'est absolument le contraire. Personne n'aime cet accord que Mme May a négocié, mais la question c'est, est-ce qu'on serait obligé d'y rester et où est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir le plus tôt possible après? Et c'est pour ça que cette question du backstop est importante. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas l'Irlande qui est en jeu, c'est l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Alors, ce qui peut être aussi intéressant de voir, c'est si les Brexiteurs de 2016 sont les mêmes, exactement les mêmes, que les Brexiteurs de 2019. J'imagine qu'il y a une réflexion qui doit finir par vous agacer, Robert Thoms, c'est-à-dire si on vous demande si vous regrettez votre vote de 2016. Et avant de vous laisser répondre et de voir ce qu'en pensent Catherine Mathieu et Vivien Pertuzot, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un reportage qui a été diffusé en janvier dernier sur France TV Info avec des Britanniques qui ont voté pour le Brexit en 2016 et qui regrettent leur vote 3 ans après.
Les pro-Brexit disaient que tout serait formidable une fois sortis de l'Union européenne. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur laisser une chance?
La principale raison de mon vote, c'était les 350 millions de livres que nous coûtait, selon les pro-Brexit, l'Union européenne, chaque semaine.
C'est quasiment devenu un vote de protestation, pas contre l'Europe, mais contre notre propre gouvernement.
Cela peut sembler fou que j'ai voté en faveur du Brexit, mais je l'ai fait en pensant qu'on ne quitterait pas l'Union européenne. J'étais en état de choc quand j'ai vu le résultat.
J'ai voté pour le Brexit sans savoir grand-chose de l'Union européenne et sans espoir de gagner.
Avec ma femme, ce matin-là, nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, les pro-Brexit ont gagné ». Ma femme est allemande, elle pleurait dans mes bras et à ce moment-là, je me suis dit « Qu'avons-nous fait ?»
Bon alors Robert Tambs, vous en croisez souvent des Brexiteurs repentis qui aujourd'hui se disent que finalement ils aimeraient bien rester au sein de l'Union européenne.
Non, très rarement. C'est plutôt le contraire. Des gens qui ont dit j'ai voté pour rester, mais maintenant il faut que la décision est prise, il faut qu'on sorte. Mais après tout, il y a très peu d'études très sérieuses sur l'état de l'opinion publique qui vont sortir pendant ce mois-ci. Mais je pense que les meilleurs experts de l'opinion publique et des sondages disent que la situation a très peu changé depuis le référendum.
Catherine Mathieu, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense qu'il y a un élément qu'on a tendance à sous-estimer de ce côté-ci de la Manche. C'est le poids et le rôle de la démocratie au Royaume-Uni et le fait qu'il y ait eu un vote qui disait en majorité qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, pour une majorité de Britanniques, ça reste l'élément le plus important de dire voilà, on a voté, il y a eu un vote, il faut respecter ce vote et il faut sortir. Et quand on regarde les sondages qui ont été publiés récemment, en fait, les sondages, pour ceux que j'ai vus, indiquent tout de même une majorité qui voterait aujourd'hui pour rester dans l'Union européenne. Mais on peut se rappeler qu'avant 2016, les sondages indiquaient aussi cela, qu'une majorité de Britanniques voteraient pour rester dans l'Union européenne. Et il y avait 20% de la population sondée qui était incertaine. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'incertains dans les sondages. Donc on n'est pas du tout sûr que le vote aujourd'hui serait différent de celui qui a eu lieu en 2016.
Ça veut dire qu'il paraît assez inimaginable qu'un gouvernement ou que le Parlement, je ne sais pas d'ailleurs comment ça peut s'organiser d'un point de vue constitutionnel, mais décide de réorganiser un référendum à l'identique, ou peut-être même, je ne sais pas si le Parlement en a le pouvoir, mais d'annuler carrément le Brexit, Vivien Pertuso ?
En soi, il a le pouvoir de le faire. Constitutionnellement, au niveau européen, le Royaume-Uni peut décider seul de se retirer de l'article 50 et donc d'annuler le vote de 2016. Ça, c'est une possibilité qui me paraît extrêmement improbable. L'organisation d'un deuxième référendum avec la même question n'aurait aucun intérêt. La question qui se pose aujourd'hui, éventuellement, serait un deuxième référendum où on poserait la question de est-ce que vous acceptez, ce serait pour la ratification de l'accord de sortie, donc est-ce que vous acceptez cet accord de sortie ou est-ce qu'on sort de l'Union européenne sans accord ? Ça, c'est une possibilité, mais qui reste quand même très infime, mais qui est sur la table. La plus forte probabilité est quand même que le Parlement ratifie directement l'accord de sortie.
Une consultation via un référendum sur les conditions de la sortie, ça c'est quelque chose qui vous paraît envisageable et souhaitable, Robert Tambs ?
Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que le meilleur, dans un sens, ça serait de dissoudre le Parlement actuel et de faire des élections générales. Mais aucun des grands partis ne le veut parce que les deux partis s'éclateront probablement. Parce que, comme vous avez dit au début de cette émission, les deux partis, conservateurs et travaillistes, sont eux-mêmes profondément divisés sur cette question, surtout les travaillistes.
Et on a vu d'ailleurs, si on se réfère à ce qu'est l'histoire des consultations européennes en France cette fois, à quel point les divisions au sein des formations politiques, on pense notamment à celles qui avaient été extrêmement visibles à gauche au sein du Parti Socialiste, peuvent être absolument destructrices pour l'avenir de ces formations, Catherine Mathieu. En tout cas, donc, oui. Référendum, consultation sur les conditions de la sortie.
Ça serait peut-être effectivement envisageable, ça me paraît peu probable aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a déjà ce point de départ, il y a eu un vote, démocratique, il faut respecter ce vote. Il y a déjà ce premier point. On a voté pour sortir, on sort. Même si on n'avait pas nécessairement envisagé ce que serait cette sortie. Et aujourd'hui, reposer la question, je ne vois pas en tout cas le gouvernement britannique engager un nouveau référendum. Jusqu'à la semaine dernière, chez les travaillistes, il n'y avait pas non plus le souhait d'organiser de façon majoritaire un référendum. Mais, et comme le disait à l'instant Robert Holmes, les travaillistes sont très divisés sur cette question du référendum. Il y a Tony Blair qui est très qui milite beaucoup depuis longtemps sur le fait qu'il faille faire un nouveau référendum, mais Jeremy Corbyn jusqu'à la semaine dernière, donc le leader des travaillistes, disait non, il y a eu un vote, il faut respecter ce vote. Et a fini par dire, bah écoutez, finalement si on ne trouve pas un accord qui soit bon pour l'économie britannique en termes d'emploi, en termes de croissance, peut-être nous demanderons un nouveau référendum, mais on sent bien que ça pose un problème de fond pour la démocratie britannique. À partir du moment où on demande aux citoyens de s'exprimer, et si on leur dit plus tard, mais non, finalement, vous avez mal voté, il faut revoter, ça pose une grande question.
Alors vous avez dit, on n'avait pas forcément imaginé que ça se déroulerait comme ça, s'agissant des négociations sur la sortie. Est-ce que, au moins, on peut comprendre ce qui va se passer une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne au regard de ce qui s'est déjà passé depuis 3 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des indices qui laissent à penser que les impacts seront plutôt négatifs, plutôt positifs ou plutôt partagés justement entre ces deux options, Vivien Pertuso? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit déjà les effets du Brexit aujourd'hui avant que le Brexit ne soit tout à fait effectif?
On voit déjà deux impacts. Le premier impact est politique. On voit à quel point l'Union européenne tourmente les partis politiques britanniques. Et c'est pas en sortant de l'Union européenne que ça va s'arrêter, parce qu'après il faudra poser la question de quel type de relation est-ce qu'on souhaite avoir avec l'Union européenne. Et donc ça, et encore une fois, l'exemple suisse est très intéressant à ce niveau-là. On voit à quel point il y a des divisions très fortes sur la place que le pays souhaiterait avoir vis-à-vis de l'Union européenne, etc. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un impact économique qui commence à se faire ressentir de manière assez conséquente, qui s'aggravera a priori, surtout s'il y a une sortie de l'Union européenne sans accord, qui s'aggravera forcément. Donc ça, ce sont les deux principales voies. Il y a une troisième voie qui n'est pas quand même neutre, c'est aussi l'intégrité du Royaume-Uni. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais les Écossais, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, surtout s'il n'y a pas d'accord, vont remonter au créneau avec une question de l'indépendance, etc. Ça va poser énormément de questions sur l'intégrité du Royaume-Uni tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Catherine Mathieu.
Oui, effectivement. Alors sur l'aspect politique, il y a forcément des. Aujourd'hui, on voit bien que la classe politique britannique s'est beaucoup divisée sur cette question du Brexit. S'il n'y a pas un accord, on a du mal à voir comment, à court terme du moins, la classe politique pourrait se réconcilier. Au sein des grands partis, hein, chez les travaillistes et chez les conservateurs au Royaume-Uni.
Ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Enfin, c'est l'affaire des partis politiques.
Oui, mais c'est tout de même important, surtout pour une démocratie. Oui. Et puis, pour l'aspect économique, alors effectivement, je pense qu'il faut déjà rappeler que le Brexit n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui encore, le Royaume-Uni est dans l'Union européenne et continue à échanger selon les règles de l'Union européenne. Il y a eu un impact négatif après le vote de 2016 qui s'est principalement traduit par une baisse du taux de change de la livre de 10% et qui donc a conduit à de l'inflation importée, qui a freiné la consommation et la croissance au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, quand on regarde la croissance britannique, on est sur des rythmes de croissance annuelle de l'ordre de 1,3%. On peut dire qu'à l'intérieur de la zone euro, on est à 1,3% aussi. En Allemagne, à 0,6% seulement, la croissance est négative. En Italie, elle n'est que de 0,9%. En France, la situation britannique n'est pas si dégradée que ça par rapport à ce qu'on voit dans la zone euro.
Et dans la tribune que j'évoquais tout à l'heure, Robert Tams, vous y voyez d'ailleurs quelques effets positifs pour l'instant, même si, comme le rappelait Catherine Mathieu, hein, il faut bien le dire, le Brexit n'a pas encore eu lieu. Mais dans cette tribune, vous parlez notamment du système éducatif et de la manière dont le Brexit et la période qui le précède commencent à avoir peut-être un effet positif sur ce secteur, en tout cas une prise de conscience de la nécessité de réformer ce système.
Oui, j'étais assez optimiste. J'ai fait exprès de faire de l'optimisme. Je pense que parmi nos pires problèmes sociaux sont liés avec la performance du système de l'enseignement public. Alors, nous avons pu, disons, se passer d'une partie de notre population parce que nous avons pu importer de grands nombres de personnes, de jeunes très bien éduqués, bien motivés de l'Union européenne. Si ce nombre de personnes diminue, on serait bien obligé d'essayer de valoriser notre propre population mieux. Mais ce n'est pas facile. Disons, il y a énormément de résistance et de conservatisme dans le système de l'éducation publique, malheureusement.
Donc, j'insiste un peu sur ce thème et qui me semble important, en tout cas un argument moi que j'avais assez peu vu sur cette question du Brexit, Robert Tand, c'est-à-dire que considérer que l'Union européenne a conduit finalement le Royaume-Uni à délaisser un peu sa jeunesse parce que le pays avait les moyens d'aller piocher ailleurs une main-d'œuvre au moins aussi diplômée et peut-être plus malléable.
Ah oui, souvent, et souvent surdiplômée. Par exemple, je vous donne un exemple personnel. La jeune femme qui nettoyait mon bureau était diplômée d'université en Espagne. Donc elle faisait ce travail-là parce qu'elle ne trouvait pas d'emploi en Espagne. C'est quelque chose qu'aurait pu faire un jeune britannique sans diplôme, mais c'était fait par une femme qui avait une maîtrise espagnole. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation, à la fois pour elle, surtout pour elle, mais aussi pour des jeunes britanniques qui se trouvent difficilement employables parce que, en fait, on n'en a pas besoin.
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument, Fabien Pertuzot ?
C'est intéressant. Après, le sujet est de savoir justement depuis combien de temps les Britanniques ont perdu l'habitude d'avoir ce type d'emploi-là ou même cette éducation-là. Est-ce qu'ils seraient capables de réformer tout leur système éducatif ? Bon, la question se pose.
Beaucoup de questions se posent, évidemment, en temps de Brexit. Mais, Catherine Mathieu.
Oui, je pense qu'il faut aussi rappeler que à l'intérieur de la zone euro, cette problématique existe aussi. Hein, il y a eu, à l'intérieur de la zone euro, depuis 2008, des pays qui ont été en crise très profonde, notamment dans l'Europe du Sud, et leur population qualifiée est venue dans des pays d'Europe du Nord, en Allemagne, en France. Il y a des Espagnols, des Italiens qui sont aussi surqualifiés pour les postes pour lesquels on les emploie, parce qu'il n'y a pas ou il n'y avait pas d'emploi proposé dans les pays en crise dans l'Europe du Sud. Donc de ce point de vue-là, la situation britannique n'est pas particulière. Ce qui était un peu particulier quand même avant 2008, c'est qu'il y avait une croissance plus forte au Royaume-Uni que dans d'autres pays européens et que le Royaume-Uni avait été l'un des seuls pays de l'Union européenne à laisser ouvertes ses portes à l'immigration de l'Union européenne sans mettre aucune limite. Le seul pays avec l'Irlande et la Suède et que effectivement les flux de population sont allés vers le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède.
Dans 25 jours, nous serons le 30 mars. Est-ce que le Royaume-Uni fera toujours partie de l'Union européenne, Robert Tombs?
Je pense que nous serons sortis, mais est-ce que nous serons véritablement sortis? Je pense que non. Ce n'est pas été l'intention du gouvernement. C'était en fait, et nous n'avons pas parlé beaucoup de cette question, mais c'est de nous garder à l'intérieur, bien qu'étant théoriquement à l'extérieur.
Nous garder à l'intérieur, bien qu'étant théoriquement à l'extérieur. Voilà, ça c'est une belle formule pour résumer toute la complexité et peut-être aussi toutes les ambiguïtés de la position britannique aujourd'hui par rapport à ce Brexit. Même question rapidement, Vivien Pertuzot et Catherine Mathieu, le 30 mars.
Le 30 mars, je pense que les Britanniques ne seront pas officiellement sortis, mais en tout cas, ils seront en bonne voie. Je pense qu'on aura besoin d'un temps pour avoir la ratification au niveau britannique. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que Robert Holmes disait. Les Britanniques, pendant 50 ans, ont cherché à avoir un pied dehors de l'Union européenne. Maintenant, ils vont chercher à avoir un pied dedans, en étant dehors.
Catherine Mathieu.
Je pense que le 30 mars, les Britanniques ne seront pas sortis de l'Union européenne sans accord. Mais je peux me tromper.
Et si elles sortent avec un accord, imaginons-le, ça ne va pas vous manquer ce dossier du Brexit que vous suivez depuis d'aussi longues années ?
Mais en fait, les questions ne seront pas réglées complètement parce qu'en fait, on n'aura réglé que la question du court terme et il faudra travailler sur toutes les questions de long terme et de la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne sur le long terme.
Bon, ça va, vous avez l'un et l'autre encore du travail pour quelques temps alors sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à la discussion. Catherine Mathieu, Robert Tombs et Vivien Pertuzot, discussion qu'on peut retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. C'est sur cette page également que vous pouvez télécharger l'émission et nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Camille Fouchard, Antoine Tricot, Léa Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras. Avec à la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.